Oui, bravo! B-R-A-V-O. Bravo à toi. Bienvenue à Angle Mort de cette... ça achève juin. Là, on est rendu le 27 juin. Aujourd'hui, je vous parle de la décision concernant et toute la frénésie autour du droit à l'avortement. J'ai déjà parlé de ça, mais j'ai des nouveaux éléments par rapport à ça. Mais j'ai plein de nouvelles en partant. D'abord, notre représentante syndicale, Elisabeth Crête, commence à la radio cet été à 10 heures chaque matin. Donc, je vous invite à l'écouter puis à lui écrire pour lui faire part de vos commentaires et tout. Je suis certain qu'elle va beaucoup apprécier. Alors, ça, c'est de un. Deuxièmement, mon Patreon, mon vidéo cette semaine... Ma vidéo cette semaine de Patreon, c'est sur une affaire que j'ai flashée en fin de semaine. À vrai dire, ça pourrait être un sujet d'angle mort, mais je trouve que c'est un sujet pour mon club privé. C'est qu'on entend beaucoup l'expression « savoir dire non ».« Savoir dire non ». Mais j'ai l'impression que le bout de secret de tout ça, c'est savoir se dire non. C'est-à-dire savoir dire non aux autres autour. Il y en a qui ont de la misère avec ça, je comprends. Mais ce qui fait la différence au final, c'est quand on se dit non à soi-même. C'est quand on n'accepte pas la culpabilité, c'est quand on n'accepte pas de dire oui, non, mais qu'est-ce que les autres vont penser? C'est une subtilité que je ne retrouve pas quand je fais une recherche sur le savoir dire non. C'est névralgique dans l'existence d'à peu près tout le monde, mais c'est toujours comme si on est, même dans le savoir dire non, on est un peu victime de la pression que les autres nous font. Mais la vraie clé, c'est la pression que tout le monde se fait sur eux-mêmes. Fait qu'en tout cas, c'est mon sujet de cette semaine. Je l'enregistre ce matin, là. Et puis, je veux vous parler de ma fin de semaine qui a été idyllique. Je dis bien idyllique, je n'en reviens pas. Je suis parti vendredi en moto, OK, avec la fin de semaine qu'on a eue, donc genre qui faisait 35 degrés. J'ai rejoint mon ami Michel Gagné qui fait des effets spéciaux puis qui travaille aux États-Unis... qui est un génie de l'animation et des effets spéciaux. C'est le seul qui joue dans les deux industries dans les ligues majeures. Lui reçoit des appels là, de Brad Bird, là, qui est le gars qui réalise des films pour Pixar. Puis il a joué aussi, pas il a joué, mais il a fait des effets spéciaux pour Gearbox, qui est une grosse compagnie qui fait des jeux vidéo. Les gamers connaissent très bien ça. Fait que Michel, on s'est jamais lâché, sauf qu'on se voit rarement. Il vient pas souvent. Puis là, il était à Québec parce que sa famille est ici. Fait que ça, c'était vendredi soir. J'ai couché chez ma mère les deux jours. Je suis revenu dimanche. Et samedi, j'ai fait de quoi que je ne peux trop vous recommander. C'est le tour de l'île d'Orléans. My God! Écoute, quand tu montes le pont de l'île, OK, puis tu as la côte, tu arrives en haut. Pour ceux qui sont jamais allés, tu peux tourner à droite, à gauche ou aller tout droit. Si tu vas tout droit, tu traverses l'île tout de suite. Hein? À ce moment-là, quand tu arrives, l'île est faite sur le large, si tu veux. Fait que si tu tournes à droite, tu vas rapidement arriver au premier bout de l'île, OK, du côté, ouest de l'île. Puis là, tu vas revenir. Et là, c'est tranquille, si tu veux, comme route, dans le sens que les villages sont près les uns des autres. Ça fait que c'est comme vraiment la campagne à son plus beau. Là, tu arrives longtemps après, hein, ça dure plus qu'une heure, tout ça. Tu arrives à l'autre bout de l'île, qui donne sur, si tu veux, tu t'en vas vers Montmagny, si tu veux, là. Tu t'en vas vers l'autre bout de l'île. Et là, le retour, par contre, c'est plus highway. C'est plus, c'est la campagne avec les grands champs. Tu sais, t'as moins de petits villages ici et là, sauf quand tu reviens à ton point de départ. Ça fait que, dans le fond, la recommandation que je vous fais, c'est si vous voulez passer tout de suite le bout où ça va vite puis où il y a moins à voir, tournez à gauche. Tournez à gauche. Puis la fin de votre ride va être Sainte-Pétronille, Saint-Pierre. Vous allez être là dans le beau petit bout. Mais écoute, quand il fait beau, alors, c'est sûr que ça doit être ennuyant à mort aussitôt s'il pleut ou autre, mais puis j'étais en moto, tu sais, tout seul, tranquille. C'était parfait. Calvaire que c'était. Je t'ai arrêté prendre un cidre mélangé cassis, un régal absolu, que j'ai jamais goûté nulle part ailleurs, j'en ai toujours rêvé. Cidrerie, je me suis un peu stein quelque chose. Après ça, je suis allé voir les Yankees au pub Saint-Patrick dans le vieux Québec. Je suis retourné chez maman, on s'est loué un film. Tu sais là, sérieux, quel beau week-end. une seule ombre au tableau, mais je m'en vais voir justement mon chiro après-midi. Mon dos, qui est de loin ma colonne, pour être précis, est vraiment arrangé à 80%, rapidement d'ailleurs. Mais le problème principal demeure, c'est-à-dire que quand je fais de la moto, après un certain temps, si je me lève de mon banc, aïe aïe, dans le bas du dos, là, je sens que c'est comme s'il faut que je déplie le nerf. Tu sais, c'est comme « ouch », quand je me lève, ça fait mal. Mais ça fait juste mal le temps de me déplier. Ça fait que, bon, ça ne durera pas, là, tu sais, c'est en traitement, mais bref. Alors, toute la frénésie du droit à l'avortement. J'ai quand même beaucoup d'affaires à vous dire par rapport à ça. Je ne reviendrai pas sur tout mon propos à l'effet que la phrase de base qui est « mon corps, mon choix », elle ne marche pas. C'est pas ton corps, c'est le corps de quelqu'un d'autre. Puis que toutes les décisions de mettre fin à la vie dans la société ont toujours rapport avec le gouvernement, donc la société au complet. La peine de mort, personne n'est offusqué de dire que c'est le gouvernement qui s'en occupe. L'aide médicale à mourir, personne ne dit hey, « voyons, mon corps, mon choix », alors que, bizarrement, ce slogan-là, c'est là qu'il va, à l'aide médicale à mourir, à l'euthanasie, là, c'est mon corps, mon choix. C'est là que ça va. Fait qu'il y a comme eu un genre de slogan qui a été déplacé, tu sais. Mais ça, vous regarderez, j'ai un épisode où je suis allé dans le fond de l'affaire, là, scroller dans votre choix, là, dans le menu. Vous allez voir, à un moment donné, là, je parle de ça. Non, moi, aujourd'hui, je veux montrer à quel point il n'y a pas de système parfait. C'est plate, hein? Mon Dieu que c'est plate. Si je pouvais arriver en disant, savez-vous quoi, c'est ça qui est fantastique. Puis j'ai deux points principaux par rapport à ça. D'abord, c'est un peu hallucinant comment aux États-Unis, puis peut-être que ça va se propager, je sais pas. Mais aux États-Unis, là, il y a une inversion du pouvoir supérieur qui est en train de se faire. C'est-à-dire que la Constitution américaine protège la liberté religieuse. Mais c'est la Constitution qui est le pouvoir supérieur aux États-Unis. Or, dans tout le débat à l'avortement, c'est des gens qui ont décidé que la Bible était le pouvoir supérieur. On est très offensé quand il y a des sondages qui indiquent en France que chez les jeunes, les moins de 30 ans, il y a une majorité qui pense que la charia, donc la loi islamique, est au-dessus de la loi de la France. C'est comme, oh mon Dieu, c'est épouvantable, regarde comme on est envahi, c'est le grand remplacement, etc. Qui est effectivement extrêmement zéro, surtout venant de plus jeunes. Mais c'est la même affaire aux États-Unis, là. Il faut bien comprendre c'est quoi qui se passe. Le problème des États-Unis, j'en avais parlé à la radio avec Sylvain Bouchard, c'est le bipartisme. C'est une plaie, cette culture politique-là, où tu as seulement deux partis politiques. Parce que si t'es pas un, t'es l'autre. Ton autre choix, c'est voter blanc. Annuler ton vote, donc tu sers à rien. Ou de pas aller voter, tu sers encore moins à rien. Mais pour prendre une image, c'est comme si ici, je disais, moi, je suis pas du tout pour Trudeau, donc Maxime Bernier. Dieu merci, il y a les conservateurs avec toutes leurs aléas internes de qui sera le prochain chef ou autre. Mais je veux dire, il reste que tu vas avoir après ça le NPD. Bon, je vous en ai déjà parlé. Ça, c'est la plaie ultime. Mais là, tu te rends compte qu'il y a comme tout un autre thinking qui est en train d'émerger, qui est que la loi, c'est pas la Constitution américaine, celle qui tape tout, c'est la Bible. Ce qui vient fausser tout le thinking des juges à la Cour suprême, qui sont 9, dont les derniers ont été nommés par Trump, puis qui ont toujours été d'allégeance très droite, très anti-avortement, etc. Alors, qu'est-ce que ça amène? De un, ça amène un problème de conflit irrésolu, parce que aussitôt que la religion s'en mêle, la raison débarque. Ça fait que ça, c'est atroce. Parce que tu te bats contre quelqu'un qui dit « Oui, mais moi, dans la Bible, c'est écrit que... » Non, mais on ne peut pas s'en claquer plus, là. Tu as décidé, avec bien tristement beaucoup de monde, d'adhérer à ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ton droit de croire à ça, il est protégé, mais pas de me l'imposer, pas d'en faire tout à coup une loi qui va aller au-delà de ce que la Constitution dit. Constitution qui, d'ailleurs, peut se transformer. C'est prévu au Canada, en France, aux États-Unis. tous ceux qui ont fondé les constitutions des pays ont prévu comment la transformer. Pas en criant lapin, ça prend souvent au Canada, il faut que tu ailles genre trois quarts des provinces qui représentent 66%. Là, je me mêle dans les chiffres, mais tu sais, c'est lourd changer un aspect de la constitution, mais c'est possible. Viens me dire que tu vas changer un aspect de la religion. Ouais, on s'est assis et on a décidé que. Déjà, c'est absurde. C'est supposé être des affaires qui viennent d'il y a 2000 ans. Ça fait que c'est un conflit irrésoluble que quand tout à coup, il y a cette tendance-là qui est culturelle. C'est culturel. C'est dur de combattre ça parce que ça pousse dans les chaumières. Ça fait que c'est un double problème américain, c'est-à-dire deux parties. Si t'es pas un, t'es obligatoirement complètement l'autre, même si tu adhères à une partie seulement de l'autre, mais pas du tout à son adversaire. Donc, you're doomed. C'est comme, il y a combien de monde, tu penses, qui sont républicains juste parce qu'ils sont pas démocrates? Ils sont obligés de ramasser ce ramassis de patentes-là, puis de... C'est comme complètement débile. D'ailleurs, ça peut leur faire très mal aux républicains, cette histoire-là de Cour suprême qui est en train de virer un peu crackpot. Parce que... Bref. Puis je le répète, pour moi, contrairement à l'opinion populaire de ce temps-là, c'est un sujet de débat. Mais le débat, c'est pas pour ou contre l'avortement, malgré que si je veux être cohérent, il faut que je dise oui. Le débat, c'est combien de semaines? Ça se peut pas que juste avant qu'il naisse, cet enfant-là a aucun droit, puis que voilà, je me fais avorter 5 minutes avant, tuez-le. Voyons, tout le monde en convient. Bon, ben ça veut dire que tu peux reculer encore. C'est certainement pas juste la veille, puis non plus la semaine d'avant. Puis là... Fait que c'est le curseur de « ça n'a pas de sens, puis ça a du sens ». C'est le curseur de « c'est un meurtre, c'est pas un meurtre ». Il est où? Voilà. Moi, je suis pour l'avortement depuis le jour 1, je l'ai toujours dit. J'ai tout le temps été pour, j'ai jamais eu de bémol même, à part évidemment quand, là, dans le processus. Mais j'ai pas les mêmes raisons que vous autres. C'est juste que pour moi, un embryon, ça n'a pas la même valeur. La vie d'un embryon ou d'un... Après X semaines, je sais même pas comment le dire, ça n'a pas la même valeur. Il n'y a pas de conscience encore ou autre. Si c'est pour scraper la vie et de l'enfant, de sa mère, de son entourage, moi, pardon, ça ne me pose pas de problème. Je le dis de même. Ça fait que c'est ça ma position. Donc, j'ai toujours été pro-avortement, mais pas du tout pour les raisons invoquées à la mode. Bon. Ça fait que la première affaire, c'est le bipartisme. La deuxième affaire, c'est l'arrivée de la religion. Mais là, la troisième affaire, c'est très drôle que c'est arrivé après que je me sois acheté un livre que j'ai lu la semaine passée. Je suis en train de le finir, ça s'appelle « Le totem de l'état de droit ». C'est par un avocat français, je vais vous trouver son nom, là. Donnez-moi 3 secondes dans mon iPad, je vais le trouver tout de suite. Il s'appelle Ghislain Benessa, « Le totem de l'état de droit ». Alors lui, ce qu'il raconte, c'est un peu la genèse de ça, l'état de droit, ça vient de où? Ça vient d'Angleterre, beaucoup, ce qu'il appelle la « rule of law », etc. Puis ça a été après ça un peu récupéré par tout l'esprit européen, de l'Union européenne pour montrer que c'est quoi. Puis l'état de droit, quelque part, selon l'auteur, c'est vraiment la primauté des droits individuels. C'est-à-dire, on est dans un état de droit, ce qui fait en sorte que j'ai le droit de changer de sexe, j'ai le droit d'être homosexuel, j'ai le droit d'être musulman, j'ai le droit d'être un autochtone, j'ai le droit d'être tout, tu sais, j'ai le droit d'être tout. Donc, en un mot, c'est que ce qui n'existe pas, bizarrement, c'est le droit collectif. C'est vrai, je n'ai jamais pensé à ça. Il n'y a personne pour dire « Hey, ça, c'est un droit collectif ». Je veux protéger le droit collectif. Alors, à la rigueur, on peut dire, ben oui, ça existe, c'est le droit lui-même qui protège tout le monde. Tout le monde est égal devant la loi. Mais l'état de droit a tendance à dire, ben, c'est les minorités qui sont protégées par ça. Puis, je veux dire, pourquoi pas? J'ai pas de problème avec rien de ça. Je suis avocat, tu sais, je veux dire, j'ai quand même été... Je comprends ces notions-là, puis je suis pas offusqué par un pays où... Mais, Benessa amène 2 mots qui sont, au final... Les 2 points sur lesquels il y a un combat, c'est la légalité versus la légitimité. Je l'ai jamais entendu aussi simplement résumé. C'est-à-dire que légalement, le droit passe avant tout, incluant les lois qui sont votées, qui, si elles ne sont pas constitutionnelles, peuvent être renversées et annulées. Donc, c'est la légalité qui devient le pouvoir. Ou la légitimité, c'est-à-dire que, OK, là, les juges, on vous trouve drôle, là, mais vous avez été nommé, vous n'avez pas été élu. Puis, tout à coup, les gens nomment, exemple, la CAQ qui amène le projet de loi 21 contre les signes religieux. Contre les signes religieux, ça fait bizarre. C'est pas la bonne... J'étais en train de prendre les mots populaires de ceux qui sont contre, mais à propos des signes religieux dans pour les employés de l'État, faut être très précis. Donc là, tu peux inférer que généralement, la population est d'accord avec ça. Puis selon les sondages, c'est souvent le cas, etc. Mais là, ça se peut que ça soit renversé. Alors, tu dis, attends un peu, il y a une légitimité démocratique assez... Oh, le tramway pose le même problème. Le tramway, les détracteurs du tramway, dont Éric Duhaime était et est encore aujourd'hui un fer de lance, disent souvent que ce projet-là n'a pas de légitimité démocratique. C'est-à-dire que la bombe, après avoir été élue, a décidé que, ben tiens, je vous en ai jamais parlé quand j'ai fait campagne, mais j'ai décidé que là, c'est un tramway que ça prend ici, puis c'est tout. Voilà, 3,4 milliards de charbon. Pardon, c'est totalement démocratique. Si ça ne l'était pas, ben il y aurait eu... un renversement de tout ça. Il y aurait eu des poursuites. Ben là, il y a une poursuite bidon là, qui a lieu là, par Guy Bertrand, mais c'est fondé sur rien. En un mot, la bombe avait entièrement le droit de faire ça. Mais la question qui se pose, si tu veux, plus moralement, c'est est-ce que démocratiquement, c'est bien un projet de cette envergure-là? Vous savez qu'il y a des villes dans le monde, hein? D'ailleurs, il y a des villes en Europe, plusieurs, où à partir d'un certain budget, font un référendum. Alors, c'est en substance ce qu'Éric demandait. Ça fait que ça, on parle de légitimité, mais légalement, pardon, mais la bombe a fait exactement ce qu'il avait le droit de faire. Il avait le droit de mener ce projet-là à terme. Bon. Ça fait que t'as, je reviens avec le problème des États-Unis, c'est le deux parties, c'était pas un, t'es obligatoirement juste l'autre, zéro. Après ça, t'as le dernier point, c'est le côté état de droit. Où là, je veux montrer à quel point ce qu'on appelle l'état de droit, comme d'habitude, c'est super fantastique quand ça fait notre affaire. Parce que, pardon, mais la Cour suprême des États-Unis, c'est pas une institution rigolote, c'est pas la cour d'école. C'est du monde qui sont sérieux, qui ont des antécédents juridiques crédibles. Qui sont des fois avec, le Kavanaugh, par exemple, avait des accusations d'agression sexuelle ou autre. C'était quelqu'un de plutôt sulfureux. Trump l'a backé pareil. Mais le côté personnel, c'est tout du monde. C'est pas genre, on a pris quelqu'un là, dans la rue, on le trouvait drôle. C'est pas un jury, là. Ça fait qu'ils correspondent exactement, en tout point, à ce que représente l'état de droit dans une nation civilisée et démocratique. Désolé de vous le dire. Ça fait que là, tout à coup, ils votent contre l'avortement. Ah ben là, c'est une... Jane Fonda, dans Le Monde, avait été en entrevue en fin de semaine, puis disait c'est un cloaque de l'extrême droite, etc. Effectivement, coup sur coup, légaliser rendre légale l'idée d'avoir un gun à l'extérieur de chez soi, puis le lendemain, renverser en disant, savez-vous, c'est quoi le prétexte? Il n'y a rien dans la Constitution américaine qui est pour l'avortement. T'imagines? Je pense qu'il n'y a rien non plus qui dit qu'il faut cueillir des fraises avec des guatémaltèques. Tu sais, je veux dire, une Constitution, ça ne prévoit pas tout et son contraire. C'est les grandes lignes sur lesquelles après tu t'appuies. Puis ça a été fait en 1789. On se calme là, si ça n'a pas parlé d'avortement à cette époque-là. C'est n'importe quoi. Mais mon point, c'est pas ça. Mon point, c'est juste de vous dire, quand vous entendez dire « Ah oui, l'État de droit, nous sommes dans l'État de droit », c'est quand ça fait ton affaire. J'ai vu de quoi tantôt des cas, hein? Un caricaturiste en France que je connaissais pas, qui fait des dessins, lui, mais vraiment de droite. Il y a une nouvelle revue qui vient de sortir d'ailleurs qui s'appelle La Furia, qui est comme un Charlie Hebdo, mais de droite, qui rit des musulmans, qui rit de toute la gang de à gauche qui rit juste de ça. Puis c'est très drôle, comme Charlie Hebdo, qui est très drôle, puis que quand tu partages pas les sensibilités, ça te fâche, mais ça s'appelle la caricature, puis c'est une grande tradition française. Puis il y a un des d'autres qui écrit pour ça, que je connaissais pas, c'est quand sur Twitter je vois passer des affaires. Puis dans sa bio, c'est marqué « Je suis un caricaturiste controversé, entre parenthèses, si j'étais de gauche, on dirait engagé. » Mais c'est tellement bon! C'est tellement vrai! Cet humoriste engagé, j'ai toujours dit ça. Oui, voici l'humoriste engagé X. Pourquoi on dit ça, l'humoriste engagé? C'est qu'il n'y a tellement pas de contrat que quand il se fait engager, il faut qu'il en parle. Mais sérieux, c'est aussitôt que tu es à gauche, tu es engagé, à droite, tu es controversé. Guy Nantel, qui va dire Guy Nantel, un humoriste engagé? Personne. Parce qu'il y a eu, il n'est même pas à droite tout, mais il y a eu, par exemple, dans ses podcasts, ou ce qui était comme avec une critique du féministe, etc., bon, on aime ou pas, mais, c'est le très controversé Guy Nantel Il n'est pas engagé pas pantoute, lui. Tu es engagé quand tu es à gauche. Tu trouves ça un vrai régal. Ça fait que c'est ça, l'état de droit, pardon. Aurélie Langteau, non seulement que j'aime, je pense que j'idolâtre. J'en viens pas à avoir cet âge-là, puis être aussi brillante, puis écrire comme ça, ça n'a pas de sens. Elle écrit dans Le Devoir. Je partage pas ses sensibilités. C'est encore une fois, elle est à gauche toute. Tu sais déjà ce qu'elle va écrire, blablabla. Mais c'est avec un raffinement hors norme, vraiment. Puis là, elle écrit évidemment là-dessus en disant « Oh my God, ça se peut pas, le pire s'en vient. » Parfait. C'est encore une fois très articulé. Mais c'est à quoi c'est ça que j'ai répondu? Ben, coudon, l'état de droit, finalement, c'est-tu si fantastique que ça? Ah! Quand ça juge de notre bord. Ah, ça, dans ce temps-là, on trouve ça très hot. Fait que c'est ces petits bémols-là que je voulais vous parler aujourd'hui. Je trouve que c'est pas inintéressant de faire l'analyse de ce qui se passe là, avec un petit peu de recul. Et puis, voilà, donc on se reparle plus tard cette semaine. Merci, bye-bye.